Nous voulons plonger encore nos regards ce soir dans ta parole, afin de comprendre et discerner et être renouvelé, de pouvoir être transformé comme que toi tu le veux, Seigneur. Merci de ce que tu vas faire encore ce soir. Au nom de Jésus, on donne une pleine liberté. Amen, Seigneur. Alléluia. Je vais commencer avec un verset dans Romains 12, au verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je vais vous le relire. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Souvent dans notre vie, on réagit, on agit, on fonctionne quotidiennement, tous les jours, selon comment est-ce qu'on voit les choses. Selon ce qu'on est éduqué, selon ce qu'on a appris au fur et à mesure de notre vie, selon aussi les choses qu'on a vécues qui a fait que des fois ça nous a mis des blocages, ça nous a mis des arrêts, ça nous a ralenti. Puis là, notre caractère a été modifié, notre conduite a été modifiée au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie. Mais savez-vous que le Seigneur, lui, en a une manière qu'il veut que nous soyons, puis en fin de compte, on peut même réaliser qu'on n'a pas encore atteint ce modèle-là que Dieu nous présente dans sa parole, mais il y a quelque chose qu'il veut, comme dans ce verset-là, ça nous laisse sentir, qu'il veut qu'on tende, puis qu'il veut qu'on y arrive. Il dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Moi, je pense que le Saint-Esprit, à chaque réunion qu'on vient, il continue à travailler et à changer notre intelligence, notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de comprendre les choses. Il nous révèle d'autres choses afin que notre pensée, notre intelligence soit de plus en plus selon sa volonté à lui. Puis est-ce qu'on est prête à se laisser renouveler encore ce soir? Est-ce qu'on est prête à laisser le Saint-Esprit agir? Savez-vous que la majorité du temps, les choses que Dieu va se servir pour nous transformer dans notre intelligence, c'est de la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Celui qui bâtit sur le roc, sa maison est bâtie sur le roc », ça parle de sa parole. Sur qu'est-ce que Jésus a enseigné? Sur qu'est-ce qui va demeurer éternellement? C'est là-dessus qu'il faut bâtir notre vie. C'est là-dessus qu'il faut évaluer nos pensées, notre raisonnement et se laisser renouveler dans notre intelligence. C'est comme ça qu'on va arriver à discerner quelle est la volonté de Dieu. Si on voit quelque chose qui est écrit à quelque part, il faut se dire, c'est écrit-là, noir sur blanc, ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça fait partie des choses que Dieu veut que j'applique dans ma vie, dans ma manière d'être, dans ma manière de réagir, dans ma manière de fonctionner. C'est sûr que je peux dire, aujourd'hui, je suis rendu à un certain niveau, mais je tends à ce qui est parfait. Je veux me rendre à devenir à la stature de Jésus. Puis si ça ne sera pas possible d'arriver là, on est aussi bien dit, on va laisser le Seigneur faire son ouvrage, puis on n'a même pas besoin d'y aspirer, c'est impossible. Moi, je crois qu'on peut tendre, désirer, se laisser renouveler, puis même utiliser tous les moyens qu'il nous donne pour devenir de plus en plus fort, puis de plus en plus efficace, de plus en plus comme lui. Parce que lui, il veut le faire. La seule chose qui nous empêche d'y arriver, c'est qu'est-ce que nous autres, on pense, est-ce que nous autres, on veut y arriver. Puis si nous autres, on veut y arriver, le Saint-Esprit voulait déjà le faire, ensemble, parce qu'on marche avec le Seigneur, puis il ne va pas au-delà de qu'est-ce qu'on lui donne comme accès. Seigneur, je veux que tu le fasses. Je suis prêt à changer. Quand il te montre quelque chose, oui, j'accepte de changer cette chose-là parce que ça, c'est pas de ta parole, c'est pas de ta volonté. Je te demande pardon de ces choses-là. Et au fur et à mesure qu'on relâche les choses qui sont pas de lui, parce qu'il nous montre ses vérités, puis on relâche ce qui est pas de lui, il nous transforme et nous amène de plus en plus à la nouvelle image selon la nouvelle nature qu'on a reçue en lui. Et je crois que le Seigneur ce soir, parce que je suis obligé de commencer avec une introduction semblable, parce que le sujet de ce soir, on est rendu au chapitre 18 du cours, quelques pensées pour combattre nos propres blocages. C'est sûr que, là on parle encore dans le sujet de l'évangélisation, mais ça peut être sur n'importe quel sujet qu'on parle de se bâtir face à ce que la parole de Dieu dit. S'il y a des déclarations, Jésus a dit c'est ça, mais faut arriver à se conformer à ce qui est écrit là. Mais si on parle au niveau de l'évangélisation, si on parle au niveau qu'on va aller parler du Seigneur à d'autres personnes qui nous entourent, on veut arriver à être capable de partager ce que Dieu fait dans notre vie, ce que Dieu nous a montré dans sa parole, ce que Dieu il a répondu à nos prières, mais on est comme bloqué, là, on est empêché, puis il y a des choses qui mettent un arrêt. Est-ce qu'on s'arrête des fois pour réaliser c'est quoi cet arrêt-là? C'est quoi qui fait que je suis bloqué, que j'ai de la misère à parler? Puis là, ça peut être une émotion, ça peut être un raisonnement dans ma pensée qui me bloque, ça peut être bien des choses, mais ce soir, on en voit quelques-uns. Puis on va voir aussi un verset de la parole de Dieu comme en comparaison dans ce sujet-là. Puis ça, c'est pour nous amener à ce qu'on réalise notre état. C'est vrai qu'il peut y avoir un blocage, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui nous empêchent, mais c'est vrai aussi qu'on peut aller plus loin parce que Jésus a dit c'est là. Jésus a dit c'est comme ça. Fait que, à quelque part, si on permet au Saint-Esprit de faire le changement, il va le faire. Est-ce qu'on est prêt d'aller plus loin? Est-ce qu'on est prêt d'aller au-delà de nos limites? Que nos limites, là, naturelles sont là, que nos piquets peuvent s'être arrachés et plantés plus loin, puis qu'on y aille plus loin. Puis ça va nous appeler à aller au-delà de notre zone de confort. Parce que vous avez déjà entendu prêcher là-dessus par un autre frère sur les zones de confort, je pense que c'était avant que j'arrive, parce que j'ai entendu ça à quelques reprises. Si on fait comme un résumé de ça, on a toute une zone de confort. Où est-ce qu'on est à l'aise? On est habitué de fonctionner dans ce roulement-là, puis on est comme en sécurité, on n'est pas confronté à rien parce qu'on est comme replié en nous-mêmes dans une manière d'agir de tous les jours, puis on est statu quo. Puis là, vu qu'on veut pas vraiment sortir de cette zone-là, il y a comme une carapace même qui se fait, puis même il peut y avoir plein de pensées qui sont bâties dans notre raisonnement pour comme approuver la situation pour que je l'accepte, puis que je reste dans cette situation-là, puis comme ça, je ne change point. Puis je pense que tant que le Seigneur nous dit qu'il veut nous rendre à son image, à sa ressemblance, il faut devenir à la stature de Christ, puis que les ministères sont là pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous amener à la stature de Christ, que si on n'avance pas, c'est parce qu'à quelque part, il faut comprendre c'est quoi le processus qui va faire que je change. Je suis dans une zone de confort, je suis comme emmuré dans cette zone-là. Mais Dieu veut pas que je reste là, Dieu veut m'amener à être comme Jésus dans tous les aspects. Puis c'est possible, parce que la Bible a dit, tout est possible à celui qui croit. Puis sur quoi qu'on va bâtir notre croyance? Mais c'est sur la parole de Dieu. Quand Dieu dit une déclaration que son Église est comme ça, c'est pas juste quelques-uns de son Église qui doit arriver à être comme ça. C'est toute son Église qui doit arriver à être comme ça. Les promesses ou les déclarations du Seigneur, c'est pour tout le monde. La promesse d'être sauvé, est-ce que c'est juste pour Daniel Poulain? Non, c'est pour tout le monde. La promesse d'être exaucé dans nos prières, quand on demande, puis qu'on croit ce qu'on demande, puis qu'on l'attend avec persévérance, est-ce que c'est juste pour Daniel Poulain? La promesse de qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que c'est juste pour Daniel Poulain? Ben, la promesse qui dit que tout disciple accompli sera comme son maître, est-ce que c'est juste pour Daniel Poulain? Moi, quelque part, toutes les déclarations que le Seigneur donne dans sa parole, c'est pour chacun de vous. Puis si vous dites, ah ben moi, je suis une personne timide, j'ai une personne qui a peur, j'ai une personne que je suis pas capable, mais peut-être que vous êtes là aujourd'hui, mais je crois que Dieu veut vous amener là, comme lui. en autant que vous voulez laisser le Saint-Esprit vous transformer et que vous acceptiez les révélations, puis vous demandiez au Seigneur de venir faire le changement. Là, vous allez commencer à décoller de votre zone de confort. Là, vous allez étendre vos limites, puis vous allez devenir meilleur spirituellement parlant, dans le sens plus conforme à la volonté de Dieu. Si on regarde dans la parole, quand il dit qu'il avait remis 5 talents à un, 2 à l'autre, 1 à l'autre, selon leur capacité. C'est vrai qu'à ce moment-là, ils pouvaient pas faire plus que ce qu'ils avaient reçu là, parce que c'était selon leur capacité. Mais quand ils ont fini leur vie, celui qui n'avait 5 t'a rendu à 10, celui qui n'avait 2 t'a rendu à 4, parce que ses capacités avaient augmenté, parce qu'à quelque part, il a fait confiance au Seigneur, puis le Seigneur a transformé sa vie, puis ses piquets de ses limites ont augmenté, puis ses dons et ses capacités ont augmenté aussi. Il était rendu qu'il avait doublé ses capacités. Moi, je crois que c'est pour toute son Église. Il veut nous amener à aller plus loin. Oui, au Seigneur. On va regarder chaque déclaration. C'est pas pour qu'on s'en fasse un fardeau de culpabilité. C'est pour qu'on s'en fasse comme un point à se rendre. On va réaliser des choses, qu'est-ce qui est écrit là, puis on va réaliser des passages des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, à quelque part, mais on sait que c'est le but à atteindre avec l'aide du Seigneur, puis il va le faire, merci Seigneur, qu'on peut déjà croire en son œuvre. Pourquoi un chrétien ne devrait pas avoir peur de témoigner? Ça, c'est la grande question. Parce que si on regarde en général, on a tout passé par là, qu'on vient pour ouvrir la bouche, puis là, on aimerait mieux être enterré, rentrer en dessous du tapis, que d'être obligé de partager ce qu'on pense ou ce qu'on sait. Pourtant, le Seigneur a donné des promesses à son Église, qui fait que si on s'appuie là-dessus, on peut arriver à une dimension, une compréhension, qu'en fin de compte, nos barrières sont pas si pires que ça. C'est juste une barrière, comment est-ce que je prends la chose? Parce que je pourrais prendre ça autrement, puis m'apercevoir qu'il n'y a pas si tant que ça des barrières qui m'empêchent réellement. Le premier point, Jésus a dit de pas craindre l'ennemi. Quand je parle de l'ennemi, c'est les démons, puis Satan lui-même. Souvent, on dit, à tous les fois que j'ai essayé de parler du Seigneur, j'ai eu des gros problèmes dans ma vie, puis là, ça allait mal, la chicane t'a pogné, puis là, c'était comme s'il a dit, à tous les fois que j'essaie de faire quelque chose pour le Seigneur, il m'arrive des attaques spirituellement, puis là, à cause de ça, j'ose plus parler du Seigneur. Parce que je vais être confronté à des problèmes par la suite. Puis ça, on en est venu comme pour que je reste dans une zone de confort, pour pas avoir à faire face aux attaques de l'ennemi, on n'ose plus parler, puis là, on se sent comme en sécurité. Y en a-tu qui ont déjà vécu ça? À quelque part, puis moi, je lève ma main, je l'ai déjà vécu ça moi aussi. Ça peut arriver même encore aujourd'hui qu'il me revient une idée comme ça. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est quel est l'état que le Seigneur, dans quel état que le Seigneur il nous a emmené quand on s'est converti. Quel est notre nouveau poste en Jésus, ou notre nouvelle stature, ou notre nouvel état, ou notre nouvelle... j'ai pas le mot exact, mais c'est comme un soldat. Avant qu'il s'enrôle dans l'armée, c'était un gars bien ordinaire. Aucun entraînement, aucune protection sur lui. Puis quand il rentre, il montre comment combattre, puis il montre comment faire ses guerres, puis ses stratégies, puis il nous montre tout, puis il l'équipe avec toutes les armes. Puis après ça, quand il le place au combat, le gars, il est équipé. Puis il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Mais spirituellement, c'est la même chose pour nous autres. Quand on donne notre vie au Seigneur, on est tout pogné, là, le Seigneur fait le ménage, il nous transforme, puis il nous apprend des choses. Puis quand il nous déclare, t'as pas à avoir peur de l'ennemi, parce qu'il nous dit, Luc 10:19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Fait que des fois, on se dit, Oh, ben là, je subis des attaques, puis je subis des contre-attaques parce que j'ai osé parler du Seigneur, puis là, je me renferme. Mais c'est à cause que je ne m'appuie pas sur ce verset-là. Parce que si je m'appuierais sur ce verset-là, le Seigneur me dit, j'ai une autorité quand je suis en Jésus. Je suis rendu revêtu de quelque chose qui fait que je suis plus haut qu'eux autres, les esprits et les démons. Puis que j'ai pas à me laisser influencer par ces choses-là. Les blocages qu'on peut se mettre, ils peuvent être renversés. J'ai pas à croire ce mensonge-là que le diable il a le droit de venir me retaper à chaque fois que je fais quelque chose. C'est faux. L'ennemi il fait juste ce qui lui est permis de faire. Si jamais il nous arrivera de quoi, c'est parce que Dieu l'aurait permis. Autrement, il peut pas rien faire. À plusieurs reprises, ils ont voulu mettre Jésus à mort. Ils n'ont jamais été capables. Juste quand c'était l'heure des ténèbres, là, c'était accordé. Là, ça s'est fait. Mais en plusieurs autres occasions qu'ils ont essayé, Jésus, il s'est pas laissé intimider par ça. Il a continué à livrer son message et à parler de ce qu'il avait à dire. C'est la même chose pour nous autres. Si on veut élargir nos frontières puis devenir comme sans peur face à l'ennemi, il faut réaliser notre position en Jésus-Christ. Il faut réaliser les promesses qui nous sont données. Il faut réaliser quel état qu'on est en Jésus, dans quelle autorité qu'on est. Puis on peut commencer même à dire, « Wow, dans le nom de Jésus, je te rejette. J'accepte pas ton mensonge. » Parce que lui, il essaie de nous faire croire qu'il est plus fort que nous autres. Puis là, le petit tourment ou la petite attaque qu'il fait, que là, qu'on n'a rien à faire, qu'on sait plus quoi faire, puis que là, on se sent écrasé. C'est un mensonge. On y dit, je te rejette dans le nom de Jésus, je t'accepte pas, tu t'en vas. Puis qu'est-ce qui se passe? Ça s'en va. Je le vis régulièrement, que je sens des oppressions qui viennent de la part de l'ennemi, mais je les accepte pas. Je les rejette en son nom. Fait qu'après ça, est-ce que j'ai peur d'avoir des représailles de l'ennemi? Quand j'ai exercé ce nouveau raisonnement-là, que je l'ai compris, mon intelligence est renouvelée, maintenant je comprends que je me laisse plus influencer par l'ennemi. Des fois on entend, « Oh, le diable il veut pas. » C'est pas grave que le diable veut pas. Dieu veut. Puis si Dieu veut, ça va se passer, même si le diable veut pas. C'est pas le diable qui a amené notre vie, c'est Dieu qui a amené notre vie. Il est plus important de savoir ce que Dieu veut que qu'est-ce que le diable veut pas. Ça n'a aucun impact dans ma vie ce que le diable veut pas. Moi, je sais qu'est-ce que Dieu veut, puis il veut qu'on avance, puis il veut qu'on devienne victorieux, puis il veut qu'on gagne des âmes à Jésus-Christ. C'est dans ça qu'il va nous amener le Seigneur. Si on s'accroche par la foi, puis on croit, puis on décide de bâtir notre vie sur sa parole, mais c'est de croire en de tels versets, puis de le garder en nous, puis on dit ça maintenant, c'est le verset que je m'appuie, il est plus question que je me laisse influencer. Il y a un amen là-dessus. Si on va plus loin maintenant, si on fait face à l'ennemi, on peut savoir qu'on n'a pas à se laisser influencer. Maintenant, Jésus nous dit de ne pas craindre les hommes. Amen. Il y a des femmes qui disent « Amen » de ne pas craindre les hommes. Alléluia. C'est la même chose, ça. Qu'est-ce qu'on a peur quand on rouvre la bouche devant des personnes? Est-ce qu'on a peur de manger un coup de poing, de manger une claque, manger un coup de pied, manger des bêtises? Manger, qu'est-ce qu'on pourrait manger pour là, ça? De se sentir comme qu'on n'est pas accepté dans son clan ou dans son idée, puis il nous rejette, puis il nous dit des bêtises. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais ils peuvent pas tuer l'âme. Ça, dans le temps de Jésus, ça arrivait souvent que des gens se faisaient tuer à cause qu'ils parlaient de Jésus. Mais dans notre temps, est-ce que ça l'arrive encore? Ça l'arrive peut-être dans d'autres pays, ça c'est sûr. Mais ici, très rare. On a même la loi qui nous protège de ce côté-là, parce qu'on a une liberté d'expression, puis même si quelqu'un, on parlera de Jésus, puis quelqu'un nous frappe, il n'a pas le droit de faire ça. La loi l'arrêtera, puis il le renfermera. comme c'est pas. L'idée, c'est, est-ce qu'on a à craindre ce que les hommes pensent, ce que les hommes disent, comment est-ce que les hommes pourraient réagir? Le Seigneur nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça dit pas de s'attrister, de se renfermer, puis de plus oser bouger. Ça dit au contraire, réjouissez-vous de ce que le monde vous persécute. Réjouissez-vous de ce que le monde parle en mal de vous, ou qui vous dit que vous êtes rien, que vous êtes des pas bons, puis vous êtes des tatas, ou quoi, peu importe le mot qu'ils prendront. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ça peut arriver à l'occasion qu'il y en a un qui vous dit une bêtise, mais ça peut arriver aussi plusieurs qui vont être contents que vous ouvriez la bouche pour y annoncer le message. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans les temps qu'on est rendus, il y en a plus qui vont vous respecter puis qui vont être contents d'entendre ce que vous avez à dire que de personnes moqueurs, méchantes, pourraient vous dire du mal. Mais ça reste encore comme il y a un petit barrage qui est là qui fait que je veux rester dans ma zone de confort. Puis ça me retient. Ça m'empêche. Puis le Seigneur aujourd'hui te dit, défaite et piquant, laisse-toi plus influencer par les hommes. Va plus loin. Des fois, on arrive dans des situations étant, on est devant 3, 4, 5 personnes, puis un chrétien avec nous autres, puis nous autres on est là, on est chrétiens aussi. Le frère, il cite un verset de la parole devant des inconvertis. On voudrait quasiment dire, ferme-toi, là, tu sais, on est comme mal à l'aise, on se sent mal, parce que la parole de Dieu est annoncée, puis que, ça m'est déjà arrivé, de ressentir ça. Faut être franc. Parce que si je veux que je sois changé sur ce côté-là, il faut que je l'admette, que j'ai déjà réagi de même. Ça fait partie de notre nature humaine de réagir comme ça, d'être mal à l'aise face à la parole de Dieu. C'est vrai. Qu'est-ce que Jésus dit dans de telles situations? Est-ce qu'il a parlé sur ce sujet-là, puis est-ce que pour lui, il y a quelque chose d'autre que tu devrais penser quand tu entends la parole dans une situation comme celle-là? Romains 1, le verset 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Là, c'est pas Jésus qui parle, c'est l'apôtre Paul. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. L'apôtre Paul, il avait point honte de l'Évangile. Lui, quand il entendait quelqu'un parler du Seigneur, ça le réjouissait. Ou même lui-même, quand il réussissait à passer même dans des régions que ça, il n'y avait jamais personne qui avait réussi à en parler, il était content puis il s'en faisait comme une fierté d'aller au front, d'aller au-devant puis d'aller l'annoncer à du monde qu'il n'avait jamais entendu parler. Ou bien il rentrait dans une place où ce que le monde, c'est du monde qui discute de toutes sortes de sujets. Puis c'est du monde qui juge les autres. Ça. C'est du monde qui parle de toutes les doctrines qu'il entend, de toutes les religions, de tous les raisonnements. Puis lui, il rentre dans le tas, puis il lui parle du Dieu éternel, puis il parle de la résurrection des morts, puis il parle de n'importe quoi, puis ça le gêne pas, puis il est content d'embarquer dedans. Puis même s'il voit tout le monde, « Ah, ouais, ça n'a pas d'allure, puis tout le monde, puis même encore plus, des fois, ils l'ont saisi, puis ils l'ont mis en prison. » Mais il était content de sauter dans le tas, parce qu'il n'avait pas honte de l'Évangile. Pour lui, là, l'Évangile, c'est une puissance qui peut sauver leur vie à ces gens-là. Puis il croyait. Ils croyaient que la parole pouvait transformer leur vie. Moi, je pense que si des fois on a honte, c'est parce qu'on n'y croit pas bien que c'est une puissance. Je pense qu'on va devenir plus efficace le jour où on va commencer à croire ce qu'on dit. Est-ce qu'on y croit que la parole de Dieu, que c'est une puissance qui transforme des vies? Mais si j'y crois, là, mais je vais être content quand il va y avoir des versets qui vont être dits tout haut, tout fort, devant tout le monde. Parce que on le sait que celui qui l'entend, ça va pénétrer son âme, son esprit, sa jointure, ses moelles, sa moelle, puis ça va le transformer. Ça va le juger, ça va le pénétrer. Jésus dit, Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il y a encore une rangée de piquets là, qu'il faut changer de place. Il ne faut plus que j'aie honte de la parole de Dieu. Il faut vous dire, j'ai hâte d'en parler, j'ai hâte que ça puisse être proclamé. Puis quand je vais avoir quelqu'un qui va le dire, un verset tout haut, « Amen, ça c'est la vérité, écoutez-le ce qu'il dit, c'est la vérité. » Puis si on prend ça de même, là, on va pouvoir y aller 2, 3, 4, 5, 10 ensemble, puis on va parler du Seigneur, puis on va péter le feu, puis il n'y a pas rien qui va nous arrêter. Puis je pense que c'est le plan de Dieu que chacun de nous, qu'on arrive à ne pas avoir de barrière sur ce côté-là. Puis c'est là que vous allez être efficace, parce que vous n'aurez pas honte d'ouvrir la bouche, puis de parler de la parole de Dieu. Vous ne serez pas gêné face devant les hommes, puis vous n'aurez aucune crainte de ce que l'adversaire, l'ennemi, le diable pourra essayer de venir faire dans votre vie. Le Seigneur nous dit d'avoir confiance en lui parce qu'il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'a pas besoin d'avoir peur. Juste le fait de savoir qu'il est là, il mène notre vie, il a tout en contrôle. On n'a rien à craindre. On en a parlé souvent, mais j'aime ça revenir avec ces passages-là parce que faut qu'on se soit conscient dans notre vie. Il est toujours là. Il y a Matthieu 28 qu'on sait tous par cœur, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Isaïe 41:10, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur est toujours là, puis il nous fortifie, puis il vient à notre secours, puis il nous soutient de sa droite triomphante. Pourquoi je ne dois pas avoir de gêne ou de crainte ou de peur? On détient les paroles de la vie. Ou les connaissances, ou les révélations des mystères de la vie. Le Seigneur les a révélées à ses disciples. C'est à quoi les vérités? Pourquoi qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi le but de la raison d'être de la création? On sait toutes ces réponses-là. Des fois, on rencontre du monde qui pense savoir les choses selon des théories qui se sont inventées avec aucune base réelle. Soit par les théories d'évolution, les théories d'extraterrestres, ou peu importe, aucune base réelle pour s'appuyer, puis ils sont pas gênés de proclamer le mensonge. Et nous autres, on détient les vraies choses, les vraies vérités. Comme dirait quelqu'un, les vérités. On détient les vraies révélations, les vraies raisons, les vraies réponses. Pour la société, à moins que vous jouez le jeu et vous n'en êtes pas rendu compte encore que vous êtes dans le vrai chemin. Mais tous ceux qui sont réellement en Jésus-Christ ont vécu des choses avec le Saint-Esprit, ont entendu sa voix, ont reçu des exaucements de prière, ont vu la puissance de Dieu, puis l'Esprit a confirmé que les paroles qu'on entendait, c'était des paroles vraies. Puis si on sait qu'on est des vrais, il ne faut pas avoir de crainte, de peur, de gêne ou de honte d'aller partager ces choses-là. On peut rencontrer ce gars-là qui se vante de grandes choses, puis que c'est tout du mensonge. C'est pas vrai qu'est-ce que tu dis, Jésus a dit ça. Juste ça, là, c'est assez pour renverser toute sa vie. Le Saint-Esprit peut se servir de ça, puis le gars, le lendemain, il va être en pleurs, en larmes, puis sa vie va être transformée parce qu'il y a un verset de la parole de Dieu, la puissance de Dieu qui a pénétré sa pensée, puis il ne sera plus pareil. Il y en a des gens comme ça qui prêchaient les mensonges du monde, puis qui se sont convertis à Jésus-Christ parce qu'ils ont connu la vérité. Juste un simple verset peut faire toute la différence. Il ne faut pas être gêné de dire, c'est pas vrai, Jésus a dit ça. Alléluia. Dans Jean 6, 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Eux autres l'avaient réalisé. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est du vrai, c'est lui qui les a les paroles. Il n'y a pas d'autre place qu'on peut aller. Mais que si on est conscient de qu'est-ce qu'on a en Jésus, on peut parler comme lui. On n'y aura pas ailleurs, mais quand on va arriver d'en parler à quelqu'un, on ne gênera pas non plus. Si on est gêné, je dis pas gêné, si on est comme pas habitué d'aller au front, d'aller parler de Dieu, d'aller partager qu'est-ce qu'on vit, si on n'est pas habitué puis qu'on aimerait peut-être faire des expériences, mais il y a des choses que Jésus a faites pour fortifier ses disciples, pour qu'ils soient capables d'y aller, puis d'y aller avec courage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés deux par deux. Il dit, nous pouvons unir nos forces, on peut s'unir avec d'autres personnes pour aller évangéliser. Le Seigneur les a envoyés deux par deux. Okay. Marc 6, 7, il dit, alors il appela les douze, puis il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Dans Luc, il dit, je suis au chapitre 10, verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, puis les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et les lieux où il devait lui-même aller. Des fois qu'on peut sonner 2, 3, 4, 5, 10, s'il y a des frères qui le font présentement, ils vont au front. Puis tout en le fait d'être ensemble, ils sont comme encouragés, puis ils n'en ont pas. Peut-être au début, juste là, quand ils viennent pour commencer, que là, c'est sûr que tu peux mal à l'aise, pas parce qu'ils sont gênés, pas parce qu'ils ont de la crainte, mais ça arrive. Plus que tu commences à ouvrir la bouche, ça sort tout seul. Après ça, quand tu as fini de témoigner la personne ou les personnes, tu pètes le feu. Tu pètes le feu. Ton cœur est dans la joie. Sors de là, alléluia, il m'a écouté. Puis des fois, il a accepté le Seigneur comme son sauveur et son maître. Des fois, la personne est venue à l'église et elle suit fidèlement. Il y a de la joie quand on gagne les victoires. Mais si à quelque part vous avez une barrière de pas habitué, moi je vous conseille de prendre un samedi, quelques heures, un samedi matin, allez voir Chantal et Gabriel, demandez-leur où ils s'en vont ce samedi-là, allez-y avec eux autres. Vous allez avoir le moyen que Jésus a utilisé pour enlever barrière à ses 12 disciples puis aux 70 disciples. Les envoyer en équipe. Il y en a un peut-être qui est un petit peu, pas moins gêné, mais un petit peu plus audacieux. Il part, puis il parle. L'autre prie. À un moment donné, l'autre, il a pas rien à dire. L'autre embarque. Puis ça se fait à deux, ça se fait à trois. Vous allez sortir de là édifié, puis vos limites, ils vont avoir augmenté. Vous allez y retourner la semaine suivante, vous allez avoir plus de courage, plus d'assurance. La semaine d'après, ça va être encore mieux. Première nouvelle que vous allez savoir, vous allez être prêt à y aller tout seul, avec quelqu'un d'autre qui n'y a jamais été. Puis que là, vous allez continuer à remporter des victoires pour le Seigneur. Y en a-tu qui croient à ça? On va s'arrêter là pour ce soir. Quand on va rentrer dans un temps de prière, déjà sur ces points-là, on peut déjà remettre ça devant le Seigneur. Pour que le Seigneur, il vienne, premièrement, on l'a admis, on l'a accepté que c'était des vérités qui venaient de sa part. Mais là, quelque part, il faut premièrement demander pardon toutes les fois qu'on a resté dans ces situations-là, parce qu'il n'y a pas de transformation dans une vie s'il n'y a pas de repentance. Aujourd'hui, il y a des pensées populaires dans le monde évangélique qui sont en train d'enlever le mot « repentance », puis juste dire un mot plus doux, juste changer de vie. C'est faux. Le vrai évangile, c'est « repentez-vous et convertissez-vous ». Regrette ce que c'est en train de faire. Mande pardon au Seigneur, puis le Seigneur va te pardonner, il va te libérer de ça, puis ta vie va changer avec la force que lui va te communiquer. Pas de repentance, pas de transformation. Le salut, c'est comme ça que ça commence. Et toutes les délivrances qu'on a dans notre vie, ça commence par demander pardon au Seigneur pour les situations qu'on vit. Puis après ça, on lui demande son aide, puis il nous la donne par la nouvelle nature qu'il nous a communiquée. Il y a des choses que vous pouvez réaliser ce soir. Le Seigneur veut que nos barrières soient enlevées, puis que nos cordages soient en point, qu'on ait une liberté de s'exprimer sans crainte du diable, sans crainte des hommes, sans crainte avoir honte de la parole de Dieu, puis d'être prête à aller au-devant avec d'autres pour se pratiquer, pour que notre capacité augmente, nos dons.